Laurent Wauquiez, c'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est un personnage qui a beaucoup de culture, il a fait des études très poussées, mais il est structurellement déstructuré. Il est intellectuellement déstructuré. Il n'y a pas une grande cohérence dans ce qu'il dit. En l'occurrence, je suis d'accord avec ce terme. Je pense que la cistana est un cancer. Mais il faut s'entendre sur la cistana et les raisons de la cistana. En fait, il y a eu un économiste qui s'appelle Keynes, l'origine de la keynésianisme, qui après le 1929, après la crise, était obsédé par « faut sauver le libéralisme ». Vous voyez la montée du fascisme, vous voyez le stalinisme, qui était « il faut sauver le libéralisme ». Et il a pensé ça, comment sauver le libéralisme? Pour sauver le libéralisme, il faut le guérir des maux qui ont provoqué d'abord la crise de 1929, puis les rebonds ensuite, et puis qui a provoqué la guerre, c'est-à-dire les inégalités incroyables, la dérégulation, l'anarchie économique, la misère sociale. Il faut le guérir de ces maux pour le sauver. Et c'est parce qu'en 1945, on a mis déjà Roosevelt avec le New Deal, et ensuite en 1945, on a mis en place cette politique keynésienne. C'est-à-dire qu'on a imposé aux capitalistes une régulation, des règles, des limites à la justice sociale et l'inégalité, etc. Qu'en effet, on a sauvé le capitalisme. On l'a sauvé. Et en même temps, on a provoqué la crise du communisme. Parce que tout à coup, ce que le communisme prétendait avoir réalisé sur le plan social, c'est le libéralisme, grâce au keynésianisme, qui l'a réalisé. Très bien. Ce qui s'est passé, c'est que ce à quoi... Et alors, pourquoi est-ce qu'il a pu imposer ça? Parce que trouille du communisme, de l'Union soviétique, le communisme qui, après 1945, s'avance en Chine, au Vietnam, dans les pays de l'Est, etc., une angoisse formidable. Et donc, les capitalistes acceptent même pour se sauver, ils comprennent qu'on veut les sauver. Ce qui se passe, c'est quand il y a eu la chute du communisme, la chute de l'Union soviétique, etc., que la Chine s'est convertie au capitalisme, ben, les décideurs, les capitalistes, ont arraché le faux-nez. On dit, il n'y a plus de danger. Bon, il n'y a plus de danger. Alors pourquoi faire ça? Très bien, puisqu'il n'y a plus de danger, revenons à la situation là où on l'avait laissé en 1929. Et il est frappant que maintenant, il parle de Keynes comme un gauchiste, l'homme qui les a sauvés. Dans l'idéologie de la sauver, ils en parlent de Keynes comme un gauchiste. Revenons, reprenons nos affaires, là où on l'a trouvé en 1929. Or, peu à peu, qu'est-ce qui se passe? On dérégularise, on privatise, on libère la partie capitaliste, le secteur privé, de son devoir social. Et on accepte de plus en plus, peu à peu, pas d'un seul coup, un capitaliste complètement dérégulé. Et en plus, beaucoup plus dérégulé en 29, parce que depuis, vous avez la mondialisation, parce que vous avez le fait que les flux, c'est à la vitesse de la lumière, etc. etc. Bon, très bien. Et les dégâts sociaux sont considérables. Les dégâts sociaux sont considérables. Et ce n'est plus à la charge du secteur privé.
Mais à la charge de l'État.
Et c'est à la charge de l'État. Et donc l'État doit passer derrière. Ça ne tient, et ça a tenu. Ça a tenu, jusqu'à présent, ça a tenu. Ça tient, parce que ça crée en effet du dynamisme. Ça crée de la richesse, jusqu'au moment où il y a une crise. Comme en 28 d'ailleurs. Le meilleur moment du capitalisme, c'est en 28. Sauf que ça débouche sur la crise de 29. Ben là... Il y a eu des moments d'expansion, de croissance, etc. Absolument extraordinaire. Mais en même temps, ça fait des dégâts. On ne s'en aperçoit pas trop parce que l'État passe derrière. Passe derrière, c'est-à-dire l'État, il n'est plus producteur, il n'est plus planificateur, il n'est plus incitateur, il n'est plus tout ce qu'il était. Mais en revanche, il faut qu'il soit réparateur, il faut qu'il soit ambulance, il faut qu'il soit médecin, il faut qu'il soit tout cela. Et c'est ça la cistana.
Mais la question,
c'est-à-dire
est-ce qu'il pourrait, aller autrement.
On a résumé dans une phrase de résumé, c'est pour ça que je dis, la cistana, c'est la conséquence du néolibéralisme. Il n'y a pas de néolibéralisme sans cistana. C'est un couple infernal. Le néocapitalisme, le néolibéralisme, c'est-à-dire non pas le libéralisme. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que le néolibéralisme, ce n'est pas le libéralisme. D'ailleurs, quand vous dites le libéralisme, c'est une forme de socialisme. C'est-à-dire que le néolibéralisme, qui c'est un capitalisme poussé jusqu'à ses excès, jusqu'à ses excroissances, etc., qui finit par être une forme de communisme privatisé.
Non, j'ai dit de cannibalisme.
Ah oui.
Carrément.
Enfin, ça, pour moi, voilà. ça finit par être... je vais finir, mais je donne un exemple. Quand Grande Métropolitane, la société Grande Métropolitane et Guinness fusionnent, rachètent l'un l'autre, ça veut dire que tous les apéritifs, tous les vodkas, tous les whisky que vous buvez appartiennent à la même société. C'est antilibéral, mais c'est du néolibéralisme. Quand rachète la société de Vivendi, ça veut dire que tous les livres scolaires, tous les dictionnaires, 90% appartiennent à la même société, qu'une grande partie de la littérature est contrôlée par... aurait, parce que ça s'est pas fait, était contrôlée par la même société, 70%. Ça aurait été dans le domaine culturel, dans le domaine de la pensée. Ça va absolument à l'encontre de toutes les règles du libéralisme et de la philosophie libérale, mais c'est du néolibéralisme. Et ce néolibéralisme qui est au libéralisme ce que le stalinisme est au communisme et ce que le communisme est au socialisme, c'est-à-dire les conséquences qui, à force d'aller jusqu'au bout de la logique, se retournent contre ce dont elle est la conséquence, eh bien, a besoin, ne peut marcher que grâce à la cistana. Donc oui, la cistana a un cancer, parce qu'une société où vous avez 6 millions, 7 millions, 8 millions de gens qui vivent non pas par le travail, non pas par l'investissement, non pas par leur intelligence, mais par de l'assistana, parce qu'ils sont assistés par l'État, c'est effectivement une société malade. C'est effectivement quelque chose qui est délétère, qui est pervers sur le plan social. Simplement, c'est la conséquence du néolibéralisme. Le libéralisme ne peut fonctionner que s'il y a de l'assistana.
Duplique avec vous, Alexis Yeni.
Je ne sais pas si Wauquiez voulait dire ça, mais parce que, moi, je suis globalement d'accord avec ce que dit Monsieur Kahn. C'est vrai que le problème du libéralisme, néolibéralisme, ultralibéralisme, etc., les termes sont toujours très flous. Je dis à dans le bouquin, c'est une sorte de jeu de bonneteau, c'est-à-dire que dès qu'on parle, dès qu'on essaye de parler de libéralisme, on nous répond que non, c'est pas ça en fait le libéralisme, ça c'est autre chose, et c'est une réalité très fuyante. Parce qu'en plus il y a des libéralismes philosophiques, économiques, politiques, pratiques, etc. C'est très très confus, et il est extrêmement difficile d'avoir un débat là-dessus, puisque c'est une notion qui se cache. Alors, on parlait d'un bout de lecture.
Oui.
Peut-être que ça pourrait être intéressant, parce que ça me paraît être, en fait, moi, ce que je peux dire de cette idée-là, de toutes ces idées-là, c'est plus par le moyen de l'écrit. Je suis désolé, voilà, le problème des écrivains, c'est qu'ils écrivent plutôt que de parler. Je vais vous infliger un petit peu de lecture. Il me faut des lunettes.
Qui révèle aussi d'ailleurs la langue d'Alexis Yeni, parce que la littérature, c'est aussi une écriture, c'est un son, c'est une musique.
Alors, ce morceau, ça correspond à ce qu'on dit à peu près. Parce que, quand je voulais dire que le libéralisme est une forme de cannibalisme, alors le néolibéralisme peut-être est une forme de cannibalisme, c'est que... À un moment donné, l'individu même, l'être humain, devient une chose sans trop de valeur. Et que le libéralisme nécessite un assistana pour fonctionner, peut-être dans nos pays prospères, il y a d'autres pays où il n'y a pas besoin d'assistana, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin des gens. Donc, c'est ça s'appelle Bengale, crime parfait. Est-il un pays qui soit plus confus que le Bengale ? Aucun. On ne le voit qu'à la télévision, sinon on ne le verrait pas. À pied, on n'en voit rien, car il est trop plat. Il n'en est d'autre image que par hélicoptère, quand il est inondé par les fleuves qui chaque année le recouvrent. Image d'un brun boueux dont ne dépasse que les toits des maisons et le sommet des arbres isolés. Rongé de marées géantes, envahi par des crues énormes qui lui apportent la boue dont il se construit, le Bengale subsiste en équilibre instable. Il culmine à hauteur d'homme, c'est à peine s'il surnage de l'océan Indien. Le Bengale est confus, ses paysages sont mouvants, ses repères se déplacent au rythme des pluies et de la lune. Il est comme une aquarelle jamais sèche où les pigments se mêlent, le vert, le brun, le sépia en différentes dilutions, et ses habitants sont en nombre indistinct mais très élevé. À Dhaka, la ville du Bengale, on trime dans un vacarme incessant, car ce dont on ne manque pas dans ce pays de boue, c'est de petites mains. De petites mains brunes et agiles, dont on ne sait pas à qui elles appartiennent, que l'on loue par paquets de mille, et qui travaillent très vite, avec toute la précision de leurs longs doigts fins. Ici, on coud. Mais on n'a pas pris soin de construire des usines pour mieux travailler. On se moque de travailler, on se moque du travail. Ici, on bricole, mais à grande échelle, car la ressource ne manque pas. Sur le sol instable de Dhaka, on a construit des immeubles sans destination préalable. On a coulé des dalles d'un béton friable, fait du sable mêlé d'argile que l'on trouve dans ce pays de vase, soutenu de piliers mal armés par des montants de fer doux. 10 étages pour le moins, car l'espace manque. 10 plateaux que des donneurs d'ordre louent pour y installer des machines à coudre. On n'a pas pris soin de construire de quoi produire de l'énergie. On n'a pas pris soin d'installer des lignes. Ici, on bricole. On tire des fils n'importe comment, par paquets que l'on noue, que l'on attache aux façades pour que le courant monte jusqu'aux étages. On s'entasse, on se gêne, et peu importe, car les tâches sont simples, exécutables par ces mains agiles, louées par paquets de mille. Et que l'on ne paye pas, que l'on paye que comme main, pas comme corps entier. C'est moins cher, on n'a pas à s'occuper du reste. Que ferait-on des pieds ou des cheveux ? On paye le travail des mains, le reste ne vaut rien. Ces immeubles sans qualité de Dhaka sont des ruches. Comme on n'a pas pris soin de construire ce qui stabiliserait la grosse consommation d'électricité, elle saute sans prévenir. Alors on installe sur le toit un générateur diesel, une grosse machine qui pèse son poids, qui crépite jour et nuit. Et ce sont plusieurs tonnes vibrantes sur du béton fragile qui se fendillent, puis se fend, puis d'un coup s'effondrent. Les fers plient, les piliers se cassent, les dalles tombent, écrasant les petites mains qui cousent entassées dedans. 1000 morts d'un coup. Victime de la désindustrialisation, victime de l'inutilité de construire un bâtiment dédié au travail, car seul compte les petites mains agiles que l'on trouve à profusion dans l'immense Dhaka et que l'on loue par paquets de mille, victime du retour du travail à façon, mais à grande échelle. Implanté là pour la grande fertilité humaine du Bengale, ses mains, il en jaillit tellement de cette terre confuse qu'il n'est pas besoin de vraiment les payer, ou à proportion de la partie du corps dont on use seulement les mains, et qu'il n'y ait pas besoin de construire une usine qui permettrait de travailler mieux pour augmenter l'employabilité de chacun. Car ici, le peu d'employabilité des hommes est largement compensé par leur grande remplaçabilité.
Voilà. Merci Alexis Yeni. Jean-François Kahn, quelle réflexion vous a conduit à écrire ce livre qui est à la fois un manifeste, qui est un pamphlet, qui est aussi un cri d'indignation, l'ineffaçable trahison?
Ça, le plus grave de ce qui se passe en France, c'est pas la crise économique, c'est pas la crise sociale. Il y a beaucoup de pays où la crise économique est plus grave. D'ailleurs, notre taux de croissance n'est pas nul. On va aller vers un taux de croissance de 1,5, 1,8, sauf si naturellement la crise provoquée par la Chine, etc., nous rattrape. Notre déficit se réduit. Je pense qu'en effet, on aura peu à peu une baisse du chômage. Mais c'est dans les esprits, c'est psychologique. La crise psychologique est extrêmement grave. Et une des raisons de cette crise psychologique, entre autres, c'est en effet ce mensonge. On va vivre quelque chose qui ne s'est jamais passé. Il n'y a pas d'exemple. C'est qu'aux élections présidentielles, les prochaines élections présidentielles, on peut avoir le choix qu'entre des gens que l'on rejette massivement. Aujourd'hui, si vous vous promenez en France, si vous parlez, il y a un autre problème, savoir si c'est juste ou pas juste. Mais il y a un rejet extrêmement fort de François Hollande. Très fort. Il y a un rejet extrêmement fort de Nicolas Sarkozy. Il y a quand même 70% des gens qui redoutent Marine Le Pen et qui rejettent absolument ce que représente Marine Le Pen. Or, il n'est pas exclu qu'on ait le choix entre ces trois-là. Ce n'est jamais arrivé. En 2007, il y avait des gens qui croyaient en Ségolène Royal, des gens qui croyaient en Nicolas Sarkozy, des gens qui croyaient en François Bayrou. Il y avait trois dynamiques. Et il y a toujours eu. Là, il n'y aura que de rejets. Et donc, il faudra choisir entre des rejets. C'est même pire que le vote par défaut. C'est ce rejet, de ce refus, quel est le moindre ? On va choisir le moindre des rejets. Avec cette conséquence, si ça ne change pas, que celui qui sera élu, sera réélu alors que 70% n'en veulent pas. Vous imaginez que quand des gens sont élus par une majorité, en France, il n'y a pas qu'en France, au bout de un an, il se retrouve avec 60% des gens contre lui, déjà, parce qu'ils sont déçus. Mais si vous partez avec des gens, 70% des gens contre vous, si vous partez déjà avec des gens, on n'en veut plus, on a donné, c'est trop, et que vraiment, la mort dans l'âme, en vous en voulant, vous-même, vous dites, parce que l'autre c'est pire, j'en veux pas, vous allez voter, et en même temps, vous vous haïssez d'avoir voté pour lui. Et donc vous attendez pratiquement la première occasion de vous battre la coulpe en disant oui, et c'est terrible, ça sera cauchemardesque. Dans les deux cas, ça sera cauchemardesque politiquement. Or, il n'est pas, j'espère que non, mais il n'est pas impossible que ce soit ce choix-là. J'ajoute que cette trahison, je dis objectif, c'est pas un jugement. À la limite, je peux m'en réjouir. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais je pourrais me réjouir de cette trahison. Mais n'empêche que c'est ressenti comme une trahison.
En précisant qu'il n'est pas le seul, d'ailleurs, au fil de l'histoire, d'avoir trahi ses promesses.
Vous avez raison. Qu'est-ce qu'on dit ? Ce qui explique cette trahison, cyniquement, qu'est-ce qu'ils vous disent ? D'abord, ils vous disent, c'est toujours comme ça. La politique, c'est comme ça. Très bien. Comment ça se fait qu'on a la démocratie ? C'est bien parce que des gens qui ont promis la démocratie ont inventé la démocratie. Pourquoi est-ce qu'on a la République ? C'est bien parce que des gens qui préconisaient la République ont fait la République. Pourquoi on a le libéralisme dans ce qu'il a de meilleur ? C'est bien parce que des gens qui se sont battus pour le libéralisme ont appliqué le libéralisme. S'il n'y avait que des trahisons, ben on serait encore au tribalisme, ou à l'esclavagisme, que sais-je ? Si on est ce qu'on est, s'il y a eu des progrès de civilisation, c'est parce que, contrairement à ce qu'on cyniquement on essaye de faire croire, ce n'est pas vrai. L'école gratuite, des gens l'ont promis et l'ont fait. La séparation de l'Église et de l'État, des gens l'ont promis et l'ont fait. Le nombre de choses dont on est les héritiers parce qu'on l'a promis et qu'on l'a fait, font que ce n'est pas vrai. Deuxièmement, Sarkozy, on peut penser ce qu'on veut de Sarkozy, il a appliqué son programme. Je le regrette, puisque je trouvais que ce programme était extrêmement mauvais. Et que c'est, hélas, il a appliqué. Mais n'empêche qu'il a fait ce pourquoi les gens. C'est pourquoi qu'il a encore des partisans. Les gens le rejettent. Mais il a encore une petite minorité de gens qui sont accros à Sarkozy. Parce qu'effectivement, il a fait ce qu'il avait promis. Je le regrette, mais il a fait ce qu'il avait promis. Mitterrand, sur ses 110 propositions, on a appliqué 90. Donc c'est pas vrai. Et il pousse plus loin ce cynisme maintenant. Ils disent d'ailleurs, si, parce que le problème, c'est pas simplement, on peut considérer que finalement, heureusement qu'il n'ait pas appliqué son programme, on peut avoir cette idée. Mais alors pourquoi il l'a dit ? Pourquoi il a été élu en disant ça ? Donc, il y a une trahison, ou bien parce qu'il fallait le faire, ou bien parce qu'il ne fallait pas le dire. Mais de toute façon, il y a une déconnexion. Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent oui, mais si vous dites la vérité, vous ne pouvez pas être élu. Il faut mentir pour être élu. Très bien, il faut mentir pour être élu. Moi, j'ai la conviction que si Hollande, par exemple, avait dit « Oui, je suis l'héritier d'une situation extrêmement mauvaise. L'héritage est absolument catastrophique, calamiteux. Je ne vais pas vous raconter des blagues. Je ne vais pas raconter d'histoires, vous bourrez le mou. Oui, ça va être dur. Oui, ça va être difficile. Oui, on va souffrir. Oui, il va falloir faire des sacrifices. Si vous n'êtes pas d'accord, votez pas pour moi. Je préfère vous le dire franchement. Il aurait été élu beaucoup plus facilement. Beaucoup plus nettement. Parce que j'aurais dit quand même, on le veut, etc. Donc,
vous le pensez vraiment? Vous le pensez vraiment?
Je le crois profondément. Je suis convaincu de ça. Il n'était pas obligé de dire des larmes et du sang, encore que Churchill a quand même dit des larmes et du sang. Il valait mieux le dire la vérité, là, on n'en était pas là. Je crois que lui, le cynisme, accepter et se couler dans un cynisme intégral, comme on est en train de le faire, comme les partisans le faire. J'ajoute un autre petit truc, tout rapidement. D'abord, il aurait pu dire... Eh bien oui, je vous ai promis à 100 choses, et voilà la situation, c'est-à-dire la même chose, mais après. T'es moins bien, mais après. Je ne vais pas le faire, je vais faire des choses que je n'avais pas dites. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai découvert ceci, parce que j'ai découvert cela, parce que je me suis aperçu que, parce que bon. De Gaulle l'a fait. De Gaulle a été élu pour garder l'Algérie française.
Ils l'ont mis au pouvoir
pour garder l'Algérie française. Il donne l'indépendance à l'Algérie, et il le dit. Il dit, mais écoutez, je l'ai cru, j'ai voulu garder l'Algérie. Bon, mais ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. On n'y arrivera pas. Et ça va ruiner la France. Et c'est une catastrophe. Eh bien, moi, je vous dis, il faut s'en sortir. Maintenant, je l'ai compris et je dis, il faut s'en sortir. Quelque part, il va jusqu'au bout. Il assume. Hollande, non. Il dit, mais non, j'ai tenu mes promesses. C'est-à-dire qu'il n'assume pas. Autrement dit, non seulement il trahit, mais en ne reconnaissant pas ou ne faisant pas la pédagogie de sa trahison, il trahit sa trahison. Et enfin, à partir du moment où il fait la politique dans certains domaines que la droite demandait et n'osait pas faire, ça, la loi Macron, c'est la droite qui l'avait commandée, c'est toutes les propositions que la droite avait commandées, et elle n'ose pas le faire, elle n'a pas osé, elle n'a pas fait supprimer les régions, faire de grandes régions en fondant les régions les unes dans les autres, elle ne cessait de le demander, elle n'a pas osé le faire.
C'est dire le courage de Hollande. Bon.
Or, à partir du moment où Hollande fait ce que la droite demandait de faire et n'osait pas faire, la droite vote contre. Donc c'est une trahison dans la trahison. Eh bien, cette espèce d'empilage de trahison a, dans l'esprit des Français, des effets absolument catastrophiques.
Vous n'avez pas l'impression que beaucoup de choses sont en train de changer, vont changer dans votre pays, en Europe aujourd'hui, au moment où nous parlons, avec le problème de ce qu'on a appelé souvent à tort le problème des migrants ou des réfugiés? Avec la question de pays comme la Syrie, comme la Libye. Vous ne pensez pas que tout ce que vous venez de nous dire, fort pertinemment, finalement, va passer ou doit passer au second plan par rapport aux questions auxquelles nous sommes confrontés?
Le problème des migrants. Sur le problème, d'abord, les gens, et il y en a malheureusement, qui nous disent « je sais ce qu'il faut faire, j'ai la solution sur le problème des migrants » est un escroc. Parce que ce n'est pas vrai. Personne ne peut avoir la solution, la bonne solution là-dessus. Mais en ce qui concerne le problème des migrants, pour ce qui concerne la France, ça rejoint quand même ce dont on parlait. Quand il y a eu, parce que j'ai écrit un livre là-dessus, des livres là-dessus, quand il y a eu ce qu'on appelle les grandes invasions, au 3e, 2e, 3e siècle, 4e siècle, qui n'ont jamais été des invasions, c'est un pur fantasme. C'était des grandes migrations, exactement comme aujourd'hui, sauf que c'était plus lent parce que les gens marchaient à pied. Mais les Suisses, d'ailleurs, ont failli partir tous en migration. En l'an 46, tout le peuple helvète a failli partir en migration. Et comment on les a arrêtés? En faisant un mur.
Bon, beaucoup de réfugiés actuellement sont à pied aussi. J'ai dit beaucoup de réfugiés aujourd'hui venus de Syrie sont à pied.
Moi, ils ne vont pas à pied tout le temps, tandis que là, c'était sur 1500 kilomètres. Donc, mais c'est une grande... migration. Or, une des raisons des grandes migrations du 2e, 3e siècle, 4e siècle, c'était les guerres civiles, c'était des dérèglements climatiques, c'était la famine dans certains pays, c'était le fait qu'à l'Est, vous avez les Huns, c'est-à-dire ces tribus asiatiques qui poussaient, qui attaquaient, qui créaient une espèce de terreur, de panique, qui poussaient, et les uns poussaient les autres, etc. Or, les Huns, dans la crise que l'on connaît aujourd'hui, les Huns, c'est George Bush et Nicolas Sarkozy, etc. C'est-à-dire ceux qui ont fait la guerre d'Irak, qui ont fait la guerre de Libye, qui ont permis l'arrivée massive des djihadistes en Syrie, c'est eux qui ont joué le rôle, les Huns. Donc on est un peu responsable. On est pour le coup, on a une hélas une énorme responsabilité dans la raison qui font que ces masses humaines prennent la route et choisissent cette aventure de la migration.
Oui, mais précisément la question que je vous posais, c'est par rapport au débat politique en France aujourd'hui, tel que vous l'avez fort pertinemment mis en scène tout à l'heure. Est-ce que ce débat-là ne va pas tout d'un coup être modifié par ce qui arrive aujourd'hui ?
Mais il va être modifié. Ah, pardon.
Allez-y. Alors, peut-être que ça devrait, mais je ne pense pas qu'il soit vraiment modifié. C'est vrai que cette masse de migrants pose des problèmes qu'on ne sait pas résoudre, tout à fait, en effet. Que faire, comment faire, quoi faire. Il y a en plus un réservoir énorme de migrants potentiels qui se trouvent dans ces pays en guerre. C'est vrai qu'il y a une responsabilité forte d'une certaine inconséquence occidentale d'avoir... Finalement, on se rend compte que d'avoir abattu Kadhafi... cause plus de problèmes que de le laisser, se rendre compte que l'intervention en Irak, qui était déjà assez aventureuse, finalement n'en finit pas d'avoir des conséquences désastreuses. C'est comme si, moi ça me fait penser un peu à Star Wars, où on voit toujours dans ces films que les gentils gagnent en plaçant un missile et un seul au centre de l'étoile noire ou du vaisseau central de l'ennemi, et qu'aussitôt que ceci est détruit, pof, ça y est, tout l'ennemi est totalement vaincu. C'est comme si au Pentagone, on croyait à ce genre de choses et qu'il suffisait d'éliminer un dictateur, de tuer Saddam Hussein pour que, pof, la démocratie renaisse soudainement en Irak. Et en fait, on a hérité d'un chaos absolu qui est de pire en pire, un chaos qui gagne la Syrie, la Libye, qui gagne... Et là, comme si on avait finalement accompagné une sorte de désagrégation terrifiante. Bon, on se retrouve en effet avec ces masses de gens, mais que faire ? Je ne sais pas. Est-ce que ça va changer le débat politique sur la façon de comment organiser nos sociétés ? Je ne crois pas, parce que ce sont des problèmes indépendants. Quel projet donner à nos sociétés pour qu'elles fonctionnent ? Ça, c'est autre chose. Et pour en venir à l'histoire de la trahison, quand Jean-François Guen dit « Oui, peut-être qu'on va avoir que des gens qu'on ne veut pas élire », je ne comprends pas pourquoi il dit « peut-être ». J'ai bien l'impression que c'est bien parti pour que ça soit ça. Et ce qui est terrifiant, en effet, c'est le manque absolu de projets. Moi qui ai été élevé dans une idéologie de gauche classique des années 70, dont l'apogée a été le 10 mai 81, avec cette idée que, en effet, la gauche avait des idées pour faire une société ouverte à tous, égalitaire, etc. Je vois depuis des années, l'absence absolue de projets cohérents. Même cette histoire de loi Macron, ce qui est fascinant, c'est de voir que c'est une série de petites mesures ponctuelles. Quel projet de société il y a là-dedans ? Comment on peut imaginer que des petites mesures ponctuelles, qui sont peut-être bonnes ou pas bonnes, j'en sais rien, il faut être vraiment un spécialiste des différents secteurs pour se rendre compte si c'est bien ou pas bien. Je ne sais pas. Mais de voir que, comme grande loi de réforme, on a finalement un catalogue de mesurettes, mais où sont des projets de société ? Comment faire pour essayer de refonder cette société qui est la nôtre, qui a eu fonctionné, qui est un peu enrayée ? Comment faire ? Et je ne sais pas. J'ai l'impression que à droite, on ne pense qu'à démonter un certain nombre de choses, et à gauche, on ne pense qu'à protéger du démontage. Mais personne ne réfléchit sur ce qu'est l'État, sur ce que doit être son rôle, sur quel doit être son périmètre, sur. J'ai l'impression que personne ne réfléchit sur rien. Et la mesure merveilleusement emblématique, c'est celle de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite, etc. Mesure si étrange, si abstraite, que la Cour des comptes a quand même dit, mais halte-là, Il faut réfléchir sur en effet si on parle de réduction de l'État, il faut essayer de faire ça bien plutôt que de faire ça de façon purement comptable. Donc où sont les projets, où sont les visions de société, où sont les où sont les utopies finalement? Parce que l'utopie, à mon sens, est totalement nécessaire, indispensable, puisque l'utopie, c'est ce qu'on n'atteindra pas, mais c'est ce qui va nous donner une direction. J'ai l'impression que la France, en effet, elle est un petit peu sans direction, elle est posée là, un peu hébétée, en se demandant où elle est. Et c'est très angoissant, et bon, moi je n'ai pas de solution pour ça. Ce n'est pas du tout mon domaine d'excellence ou je n'ai pas de pensée là-dessus. Je suis juste finalement un citoyen inquiet de voir ce monde immobile.
Raison pour laquelle, d'ailleurs, on y reviendra dans un instant, de manière romanesque, vous mettez en scène dans la nuit de Wallenham un pays, une ville inquiète.
Voilà,
et en total déséquilibre.
Voilà, c'est un roman inquiet où finalement il y a une ville qui est ravagée par des sortes de cataclysmes un peu étranges, mais qui est sidérée par ces ravages et on ne sait pas quoi faire. Et voilà, je suis le citoyen inquiet.
Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Là, je suis tout à fait. Où sont les utopies? Vraiment, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de finalité, qu'on ne sait pas où on va, qu'il n'y a pas de projet de société. C'est toute la critique de hollandisme. Sur où sont les utopies? C'est intéressant parce que aujourd'hui, le mot ne passe plus en France. Aussitôt que vous employez le mot utopie, où sont les utopies? On vous regarde. Il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Pour regarder les choses, il faut s'ancrer dans la réalité tangible. C'est quoi les utopies? Or, c'est quoi ce qu'il y a de mieux dans la réalité d'aujourd'hui? C'est les utopies d'hier. C'est-à-dire la République, ça a été une utopie avant d'être la République. La démocratie, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, ça a été une utopie avant d'être la démocratie. Le libéralisme a été une utopie avant d'être le libéralisme. Le vote des femmes, l'abolition de l'esclavage. Il faut voir ce qu'écrivaient les ennemis de l'abolition de l'esclavage en disant que c'était une utopie inouïe. Inouïe. Tout est une utopie. Sans quoi on serait resté, je le reprends, au féodalisme, à l'esclavagie, etc. Il a fallu penser des utopies. Il y a eu, dans l'histoire, un jour en 1849, il y a un débat au Parlement et Victor Hugo est parlementaire. Et Victor Hugo fait un discours très, très célèbre parce qu'il prononce la phrase « Un jour, face aux États-Unis d'Amérique, va naître un autre continent qui va faire contrepoids, ça s'appellera les États-Unis d'Europe. » C'est connu. Et tout le monde sait que les députés disent « Mais il est fou, à Charenton, à l'asile, quel dingue, etc. » Mais il va plus loin. Il dit, et à l'époque, l'importance de nos capacités de commerce sera plus importante que l'importance des régiments de cavalerie dans nos armées. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on creusera un canal à Panama, on creusera un tunnel sous la Manche et on creusera un tunnel sous le Mont Blanc. Tout le monde rigole. Tout le monde rigole. Mais il va plus loin. Il dit l'Italie sera réunifiée, il y aura un État italien, la Pologne sera indépendante, etc. Or, face à lui, un des plus grands esprits de l'époque, objectivement un des plus grands esprits de l'époque, Alexis de Tocqueville, rigole et dit c'est de la folie. Et ce qui est très intéressant, c'est que le poète, parce que visionnaire, voit juste et dit ce qui va se passer. Et que le grand philosophe libéral, parce que il s'enferme dans un bon sens limité, ne voit rien. Deuxième exemple, qui est peut-être encore plus extraordinaire. Le 16 juin 40, un monsieur fait un discours, s'appelle le maréchal Pétain. Il vous dit, mais regardez la réalité. Regardez la réalité. On est envahi. 1 million de soldats dépenaillés sur les routes, 2 millions de prisonniers, la France occupée. L'Italie fasciste, la Hongrie fasciste, l'Espagne fasciste, les autres pays occupés, l'Allemagne domine tout, Hitler a fait un pacte avec... voilà, donc il faut être réaliste. Il faut regarder les choses en face, il ne faut pas vous raconter de blagues. faut accepter, il faut que la France soit un petit pays, colonie de l'Allemagne, acceptant dans cet espace d'Europe, revenant l'Allemagne, son petit rôle, etc. Moi, j'ai les pieds sur terre, je suis pragmatique. Il dit ça. Puis à Londres, le lendemain, il y a un mec qui dit on va gagner la guerre. Et voilà pourquoi il projette complètement. C'est plus ici ou maintenant, c'est demain et autre part, et ailleurs. Et voilà pourquoi on va gagner la guerre. C'est de l'utopie pure. Mais celui qui voit, au fond, le réel, c'est pas quelque chose sur lequel on a le nez, c'est quelque chose que l'on fait. Le réel, c'est une œuvre. À Manhattan, c'était des marais. Et donc, quelqu'un qui croit qu'éternellement, c'est un marais, il serait très étonné en se retrouvant à Manhattan. Le réel est une œuvre, on construit cette œuvre. Rien de plus fou que le réalisme froid, le petit réalisme pragmatique. Évidemment, il faut de l'utopie, il a tout à fait raison, et pas d'hypocrisie. Parce que pour ce qui est des migrants, c'est quand même extraordinaire. D'abord, tant mieux que la photo d'un enfant mort ait provoqué cette émotion inouïe, qui fait que d'un jour à l'autre, des gens qui disaient blanc ont dit noir, des chefs d'État. Très bien, mais on avait tué dans ces pays-là des milliers d'enfants sans qu'ils réagissent. Il y a quand même un peu une hypocrisie. Et quand on dit, on va, c'est très simple, on va faire des quotas, on va se partager. On a raison sur le fond, il faut se partager. On va faire des quotas de 100 000. Et alors, donc tous les 15 jours, on va faire de nouveaux quotas. Parce qu'on va passer à 200 000, à 300 000 et 400 000. Il faut dire les choses comme elles sont. Et puis les quotas, ça veut dire quoi ? Madame, la Slovaquie, vous allez avoir 5 000. Votre quota, là, aujourd'hui, c'est 5 000. D'abord, ça va passer à 10 000, mais bon. D'accord ? Et si les types qui vont en Slovaquie n'ont aucune envie d'aller en Slovaquie, ils ont envie d'aller en Allemagne, ben, 15 jours après, ils iront en Allemagne. C'est une plaisanterie, cette histoire, des quotas. S'ils ont envie d'aller en Allemagne, ils vont tous aller en Allemagne. Qu'est-ce qui va l'empêcher ? Il y a quand même Schengen qui fait qu'on peut se balader au milieu de l'Europe. Et donc, il y a une espèce là d'enfumage, d'hypocrisie et d'enfumage. Je le dis d'autant plus que je ne sais pas, moi non plus, la solution. Voilà, on est devant une réalité. Il faut intégrer courageusement cette réalité en disant les choses telles qu'elles sont. Mais le pire, c'est de raconter des blagues du genre « Ah, mais on va se partager les pays, on va les mettre... » C'est pas vrai, tout le monde sait que c'est pas vrai. Donc là, il y a un devoir de réalité. On rejoint ce que vous avez tout à l'heure. Il y a un moment où, de toute façon, même si on n'a pas sur le moment la solution, il faut dire les choses absolument telles qu'elles sont. Et pas surtout telles que votre électorat a envie que l'on dise. On peut toujours construire des murs, les gens passeront à côté.
Comment est-ce qu'on met le réel dans un roman, Alexis Yeni ?
C'est un grand problème.
Tout en gardant donc la forme du roman.
Alors on essaye de le mettre avec précaution parce que il faut que le roman garde sa nature d'œuvre de langage, d'œuvre dramatique, d'œuvre qui produisent à la fois de la pensée, de l'émotion, voilà. Donc des morceaux de réel mis comme ça un peu en vrac risquent de déchirer cette espèce de construction fragile qui est le roman. D'ailleurs, bon, voilà, c'est ce qu'on dit, ça alourdit le roman. Et en plus, le romancier n'est pas obligatoirement le mieux placé pour décrire un réel qui soit sociologique, politique, économique, voilà. Le romancier, il essaye de trouver quel sens peut avoir ce réel, quel sens peut avoir notre présence dans ce réel. Donc, il faut plutôt qu'il y ait des échos du réel, en fait, dans le roman, plutôt que véritablement des morceaux, des fragments. Parfois, il y a cette tentation dans le roman contemporain de vouloir mettre beaucoup de réel, de vouloir mettre un peu de Wikipédia, de vouloir mettre des éléments très très factuels, de faire des histoires vraies. Bon, les histoires vraies, moi je suis très très dubitatif là-dessus. Quelle est la différence entre une histoire qu'on vous présente comme, euh, comme vrai, une histoire qu'on a inventée, c'est pas très très différent. Et cet accent de réel, cet accent de vérité qu'il peut y avoir, qu'on peut détecter dans un texte, eh bien, n'est pas donné par la réalité des faits, mais elle est donnée par la dramaturgie, le talent, la langue, le mouvement qui emporte ce roman. Donc, le roman doit se mettre un petit peu à côté du réel et simplement en sentir la présence, la résonance. Et c'est pour ça que, par exemple, ce roman, il est plein de morceaux de réel. L'histoire que j'ai, enfin, le moment que j'ai lu tout à l'heure, c'est totalement authentique. Effondrement d'un immeuble à Dhaka, immeuble mal construit et qui abritait des ateliers de couture, ça a fait un peu plus de 1000 morts en quelques instants. Voilà. Par abandon de toutes les règles et les normes de sécurité. En fait, on se plaint beaucoup des normes, les normes, les normes, les normes, il y a trop de normes, il y a trop de règles. Si on les abandonne, on a des résultats de cet ordre-là. Un immeuble s'effondre, il y a 1000 morts. Bon, cet élément de réel, simplement le citer comme ça, bon, ben voilà, c'est dans la presse. Il faut essayer d'en trouver le sens, d'en trouver finalement, et le sens que j'y ai trouvé, c'était ça, c'était finalement, on utilise les gens de ces pays-là comme étant presque rien, en tout cas pas des gens, uniquement des machines organiques que l'on peut louer à la tâche. Et là, il y a quelque chose qui est fondamentalement monstrueux dans notre façon de faire. Et après, bon, le chapitre continue, c'est relié à d'autres choses. Finalement, il y a un petit morceau de réel tout à fait authentique que l'on peut dater, que l'on peut trouver l'article de journal où c'est raconté, mais ça prend sa place dans toute une architecture qui essaye de comprendre véritablement ce qui se passe.
Alors, il y a beaucoup de personnages dans votre roman, mais le personnage principal, c'est Charles Avril. Il est journaliste, travaille pour un site en ligne. Et Charles, dont il est dit qu'il désirait un gros roman de fiction, roi des genres, une grande machine à la mode de ce siècle où il vivotait, pleine de lueurs, constituée de connexions infinies, de présences que l'on ne peut saisir, car rien ne s'arrête et rien ne tient. En quelque sorte, Alexis Yeni, Charles en rêvait, et vous l'avez fait.
Tout à fait, il rêve d'écrire le livre dont il est le personnage. Et ou alors j'écris le livre dont il rêve. Et c'est vrai que bon voilà, le roman c'est le genre dominant de la littérature française du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Voilà, il y a le rêve de faire un roman. On demande aux gens qui font autre chose, on leur dit quand c'est que vous allez faire un roman. Voilà. Donc c'est vraiment le genre. Mais c'est vrai que le désir qui est le mien et le désir qui est celui d'un certain nombre de romanciers, c'est d'essayer de faire un roman qui soit le roman de maintenant, de ce moment-là. De pas faire un roman à la mode du 19e ou du 20e siècle, mais de faire un roman qui rende compte de la réalité particulière, neuve, de ce moment-là de l'histoire. Quelque chose qui est peut-être moins structuré qu'un roman du 19e et quelque chose qui est voilà, justement dans un système de connexion, de présence, avec l'évolution de la notion même de présence et de la notion même d'individualité à laquelle on assiste. Car en fait, on assiste en ce moment, depuis une vingtaine d'années, à une modification incroyable de la notion d'individu, de la notion de lien, de rapport humain. Qu'est-ce que c'est qu'une individualité? Qu'est-ce que c'est qu'un rapport humain? Ou alors pour dire, un buzz internet est-il un événement? Un ami Facebook est-il un ami? Etc. Un mail vaut-il comme déclaration d'amour? Etc. Il y a des tas de choses qui sont en fait des éléments techniques tout à fait quotidiens qui modifient énormément notre rapport au monde. Quand vous voyez les jeunes gens en groupe qui discutent entre eux tout en tenant trois discussions différentes par SMS, la notion même de présence et d'être là a changé. Où sont-ils exactement ? Sont-ils là où est leur corps, là où est leur regard, là où est leur pouce, là où est leur conversation ? Il y a quelque chose qui est une grande étrangeté. Et là, le roman, ce genre extrêmement souple, peut essayer de cerner ce que c'est que le monde de maintenant, la société de maintenant et l'individualité de maintenant.
Et quel regard portez-vous, Jean-François Kahn, sur la culture et sur ce qu'elle est devenue ? Vous en parlez dans ce manifeste, en nous rappelant d'ailleurs qu'en 1956, vous travailliez au centre de tri postal de la Gare du Nord. Qu'est-ce qui se passait à l'époque ?
Une des raisons qui explique en France cette espèce de sécession qui se traduit par l'abstention et par le vote Front National, par rapport au Front National, dont si je vous avais dit il y a 10 ans qu'il attendrait 25 ou 30%, vous ne m'auriez pas cru. On finit par s'habituer à tout. Enfin, je vous aurais dit 30. Aujourd'hui, il n'y aurait pas le côté Atride, la famille Fenouillard chez les Atrides. C'est un peu ce qui se passe. On aurait des sondages à 35%. Il y a à cela beaucoup de raisons, que j'analyse d'ailleurs, mais entre autres, et ça vous concerne, ça vous intéresse, une déconnexion totale de ce qu'on appelle le peuple, on comprend, c'est une notion très abstraite, mais avec ce qu'on appelle la littérature ou la culture avec un grand C. Les gens du peuple, les ouvriers, les employés, ils lisaient Les Misérables. Ou ils se le faisaient lire. Il y a un texte, un rapport de police qui disait que c'est très inquiétant parce que dans les usines, les gens qui savent lire lisent des extraits des Misérables à ceux qui ne savent pas lire et qui pleurent. Ils disaient que c'est très inquiétant. Vous imaginez, mais ils lisaient Balzac, ils ont lu beaucoup d'œuvres de notre littérature. Ils allaient voir les mêmes, ils écoutaient la même musique, peut-être avec un décalage, ils allaient voir les mêmes tableaux, peut-être avec un décalage. Aujourd'hui, il y a une rupture totale. Il ne faut pas se faire d'illusions, il y a une partie de la population, quand vous lisez les chroniques déjà dans les journaux, quand vous lisez dans Libération ou dans Le Monde, les tribunes libres, c'est incompréhensible par 60% du public. C'est incompréhensible. Et donc, mais normalement, quand on écrit quelque chose, on se dit, il faut qu'ils comprennent. Donc on a accepté l'idée qu'on ne parle pas pour eux. Ça n'a aucune importance. Si on écrit incompréhensible, c'est qu'on a fait l'impasse sur ces gens-là.
Je vous cite certain charabia intellectualo narcissique qui caractérise, surtout dans les journaux de gauche, les tribunes libres de sociologues ou philosophes, l'entre-soi, un ésotérisme barbelé.
Oui, tout à fait. Donc, on comprend pas. Non,
mais c'est plus clair comme ça.
Mais la peinture extrêmement moderne, totalement moderne, dans les gens, ce public-là, ne comprend rien. Un point noir sur un rectangle blanc... on lui dit c'est de la peinture, c'est de l'art, il comprend rien. Quand on a dit, quand il y a eu l'histoire du champignon gonflable de McCarthy, que c'était dégonflé, les gens disent une œuvre d'art, un tentacle, une œuvre d'art. Mais pour 60% des Français, ça c'est une œuvre d'art, c'est pas une œuvre d'art. Ils ont peut-être tort, c'est un autre problème. C'est pas une œuvre d'art. La musique moderne, d'ailleurs, la preuve qu'ils ne la comprennent pas, qu'ils ne l'entendent pas, c'est qu'on ne la joue pas. On ne la joue pas. Et qu'est-ce qu'on joue à l'opéra ? On joue Verdi, on joue Donizetti, on joue etc. On joue pas les musiciens modernes, ils comprennent pas. Non mais c'est terrible, car ça n'a jamais arrivé. C'est la première fois qu'il y a un décrochage total du public avec ce qu'est la culture de l'élite, qui a plus aucun... Et du même coup, le public, il fait sa culture. Alors, du temps où il y avait encore une culture ouvrière, des partis ouvriers, c'était une culture ouvrière pour le meilleur ou pour le pire. Mais comme il n'y a plus ça, alors au mieux, c'est, je dirais presque au mieux, c'est Marc Lévy, et c'est la culture TF1, c'est que sais-je, c'est un divorce total. Et ça explique en grande partie ce vote-là, le vote Front National. Tout à l'heure, un deuxième phénomène, vous disiez tout à l'heure, je sais pas comment vous le disiez, sur l'humain, déshumanisation. Hein. En fait, les marxistes parlaient beaucoup de l'aliénation de l'homme par l'homme, l'exploitation de l'homme par l'homme. Pour une part, l'exploitation de l'homme par l'homme a disparu. Mais pas parce que l'exploitation a disparu, parce que l'homme a disparu. Vous avez une entreprise comme Picard surgelé, qui, je fais une parenthèse, où vous avez une soupe à l'oseille excellente, que je vous recommande. Vous avez un rapport du ministère des Affaires sociales qui montre que c'était une usine, une entreprise, où les rapports sociaux sont les plus tendus, du retardataire. Bon. Sauf que les employés de Picard surgelé ne savent pas qu'ils les exploitent. Ça a été acheté, réacheté, réacheté par des fonds de pension et des fonds de placement. Ils ne savent pas qui, où il est. C'est qui ? Il n'y a pas de patron, il n'y a personne. Celui qui les exploite, sans doute, mais qui ne le sait pas non plus d'ailleurs, c'est un retraité de l'Arkansas dont on a placé les actions dans cette société. Mais donc son exploiteur, ce n'est pas le patron avec un gros cigare, c'est éventuellement le retraité de l'Arkansas. Ou le petit épargnant, qui ne sait d'ailleurs pas où il a mis son épargne, il l'a pris dans un produit financier, etc. Il ne sait pas. Donc, oui, il est exploité, mais par qui ? Il ne sait pas. Quant à l'exploiteur, il ne sait pas qui l'exploite. C'est-à-dire que, d'abord, le retraité de l'Arkansas ne sait absolument pas qu'il est exploiteur, parce qu'il ne sait pas qu'on traite en son nom, comme ça, les employés dans l'usine dont il est propriétaire. Mais en plus, il ne sait absolument pas qu'il est propriétaire de cette entreprise et qu'elle fabrique, entre parenthèses, de l'excellente soupe à l'oseille. Donc, il ne sait pas du tout. Et donc, ce paradoxe, c'est que ce n'est pas l'exploitation, c'est l'homme qui a disparu. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'exploitation d'homme par l'homme. Mais c'est terrible. Ça veut dire, je dessine cette figure, c'est la figure d'un système, et c'est en ce sens qu'il faut bien comprendre. C'est dur à faire comprendre aux intellectuels, mais c'est très facile à faire comprendre bizarrement aux gens. C'est que la différence entre le libéralisme et le néolibéralisme, le libéralisme, c'est productif. Il y a des consommateurs et des producteurs, il y a un capital et un travail. C'est ce qui fait la logique même du libéralisme et du capitalisme. Là, il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus de consommateurs, il n'y a plus forcément un travail et un capital. Il y a de l'argent qui s'entoure autour de l'argent, qui surfe sur l'argent et qui fabrique de l'argent. C'est complètement différent. On est passé à un autre système. Alors, avec également des possibilités ensuite que cet argent s'investisse dans des entreprises, mais on ne sait plus qui, on ne sait plus où, on ne sait plus quoi. C'est déshumanisé. Donc, c'est aussi, à côté du problème de la culture, de cette connexion de la culture, c'est aussi un des aspects qui crée ces situations de malaise qui donnent non seulement Front National, vous le savez très bien, d'abord ici vous avez ça aussi, mais qui donnent aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, pour les deux, les gens, les électeurs qui ont de plus en plus tendance à virer les partis traditionnels, qui ne correspondent plus à rien par rapport à cette transformation, et qui de plus en plus tendance à voter. Alors ça peut être Syriza ou Podemos ou etc. Ça peut être l'extrême droite est en tête en Suède dans le dernier sondage, qui peut être des nationalistes écossais. Bref, il y a quelque chose qui est en train de changer, d'éclater, d'exploser, etc. Et la politique, en particulier en France, fait comme si on était toujours il y a 40 ans. Ça marche pas et ça explose.
Juste un mot, en 56, lorsque vous travailliez au centre de tri postal de la gare du Nord, qu'est-ce que vous avez appris ?
Parce que j'ai deux expériences. Celle-là, oui. J'étais à la gare du Nord, au Tripostal. À ce moment-là, le Parti communiste était assez fort. Était même très fort. Et je me souviens que le contremaître, il se trouve que le contremaître était aussi un des responsables de la cellule communiste. Et il distribuait toutes les semaines aux ouvriers des œuvres de Balzac, de Stendhal, de Flaubert, de, etc. Ils en discutaient, il y avait des grandes discussions. C'était vraiment au tripostal, hein, ça se passait. Pas maintenant, absolument plus. Oui, ça... Absolument plus. Mais de la même façon, j'ai travaillé aussi comme manœuvre à l'imprimerie des Fossés à Issy-les-Moulineaux. Je me souviens le lendemain d'un jour où ils avaient passé Britannicus à la télé, tout le monde parlait de Britannicus et discutait de Britannicus. Bon, aujourd'hui, ils discutent au mieux de la télé-réalité.
Alexis Yeni, dans votre roman, le personnage principal, Charles Avril, porte un regard totalement désenchanté, désabusé, à la fois sur son métier et surtout sur l'écriture et sur le style.
Oui, oui, alors ça c'est... c'est un peu la suite de ce que vient de dire Jean-François Ken, c'est-à-dire c'est le, en effet, c'est une interrogation sur ce que peut devenir la littérature. Alors, justement, la déshumanisation, c'est un des thèmes du livre, c'est-à-dire sur justement la dissolution des responsabilités, la dissolution des l'exploiteur et l'exploité ne se connaissent même plus. Comment sortir de la situation d'exploitation si on se connaît plus? En effet, la littérature, c'est quelque chose qui est dans un état étrange. J'ai grandi dans les bibliothèques et le culte des livres. Et je me rends compte que lire est quelque chose qui est peut-être de moins en moins partagé. Je vois mes enfants qui ont une vingtaine d'années, qui ont grandi dans une maison pleine de livres, qui en lisent extrêmement peu, avec réticence. L'acte de lire devient problématique pour des jeunes gens. C'est-à-dire que s'asseoir tout seul en silence longuement, c'est totalement contradictoire avec les représentations positives des jeunes gens, qui préfèrent faire des choses rapides, courtes, ensemble, et avec du son. Il y a en effet une inquiétude de ma part, c'est-à-dire que la littérature, qui est une grande chose parce qu'elle crée des utopies, parce qu'elle crée du lien, parce qu'elle crée une compréhension du monde, cette grande chose n'est-elle pas en train de se réduire? La littérature sous forme de livres, mais également la pensée écrite sous forme de presse. Parce que la presse se déglingue également, parce que n'a pas le temps, pas les moyens, pas.
Il n'y a plus la presse non plus.
Voilà, tout à fait. Et avec toute cette culture de l'écrit qui nous a structuré pendant des siècles, a tendance à se déglinguer. Qu'on ne me dise pas qu'il y a quand même de l'écrit sur des écrans, c'est pas tout à fait la même chose, on lit pas la même chose. Donc voilà, il y a une inquiétude sur le devenir de la littérature. Est-ce que la littérature va pas devenir un produit de luxe, un produit de niche, un produit également d'entre-soi, d'esthète, en fait? Et ça, c'est relativement inquiétant. Autant j'adore la petite littérature extrêmement raffinée, produits de niche, de luxe, etc. C'est très très bien. Mais après, il y a nécessité également de, comme le dit mon personnage, de gros romans qui emportent, les rêveries, le réel, la société, tout le monde, et que tout le monde puisse lire. Là, c'est un rêve de grand roman agité qui puisse tout dire. C'est ce que mon personnage voudrait faire, mais en fait, c'est ce que je voudrais faire. mais il existe une littérature populaire, mais qui est souvent qui ne joue pas le rôle de la littérature, qui est en fait quelque chose d'assez attendu, d'assez voilà. Alors il existe une littérature qui peut être, c'est le tout ce qui est roman noir, polar, etc. Mais le problème pour moi, c'est que souvent, en termes d'écriture, de rapport à l'écriture, c'est pas leur problème, quoi. Donc ça me nourrit pas de ce point de vue-là. Mais par contre, il y a une énergie et un rapport au réel dans ces romans noirs que la littérature type collection blanche de Gallimard devrait rêver de ça. Et finalement, je rêve de romans qui puissent être à la fois de beaux objets esthétiques et des machines à comprendre le monde. Mais comme l'ont fait les Victor Hugo et Balzac dont on parlait.
Il y a des romans policiers.
Oui, c'est ce que Alexis
extraordinairement bien écrits, très inventifs dans l'écrit. Mais cela, le public populaire ne le lit pas. Il y en a, mais ce n'est pas celui-là qu'ils lisent.
Pourquoi une histoire d'amour dans ce roman ?
Parce qu'un roman sans histoire d'amour, c'est un baiser sans moustache. Non, c'est pas possible, notre roman. Et puis, un roman qui essaye de dire beaucoup de choses, de dire la totalité du monde, s'il n'y a pas l'amour là-dedans, ça, il manquera quelque chose. Et en plus, comme je suis un grand romantique, l'amour sauve le monde. L'art et l'amour. Bon, c'est légèrement fleur bleue, mais n'empêche que c'est vrai.
Avant de nous séparer, Jean-François Quint, dans votre manifeste, vous dites qu'il s'agit de réviser nos vieux logiciels mentaux et qu'il s'agit de tout réinventer. Vous. Et j'ai envie d'ajouter, certes, on s'y met quand ?
Mais je le dis parce que je le pense, mais vous me direz, il y a un côté un peu banal là-dedans, dans ces phrases-là. Il y a un côté banal. Sauf que j'ai écrit des livres allant dans ce sens-là. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'Alternative, j'ai écrit un livre qui s'appelle Comment s'en sortir, c'est-à-dire, après, on en pense ce qu'on veut. Mais j'ai essayé d'élaborer une autre voie, une autre façon, approche à la politique, une autre approche à l'économie. Donc, je l'écris parce que j'ai essayé de le faire. Après, on peut être en désaccord sur ce que j'ai fait. Mais c'est clair que ça a plus de sens. D'abord, est-ce que vous n'imaginez pas la différence entre ce que disent les gens publiquement, les hommes politiques importants, et ce qu'ils nous disent en privé? Ils n'y croient plus. Je pourrais prendre 1000 exemples. J'en prends un seul, qui est le député-maire de Nice, qui s'appelle Estrosi. Il est le vice-président de l'association des amis Nicolas Sarkozy. Mais en privé, il dit des choses terribles sur Nicolas Sarkozy, mais en public, jamais. Il dit, c'est leur... En privé, c'est un des types les plus lucides que je connais, et le plus assassin sur Nicolas Sarkozy. Mais en public, il a un autre propos. Il joue autre chose, il se place autrement. Et c'est tout comme ça. Et après, on s'étonne qu'il y ait cette... de la part du public, des déconnexions de cela. Mais c'est évident, mais c'est incroyable, hein.
Il nous reste 5 minutes, c'est pas beaucoup, pour les questions que vous avez peut-être envie de poser soit à Jean-François Quint ou à Alexis Guéni. Oui, messieurs.
J'ai pas dit personne, hein.
Ces personnes que je vous disais, là, vous avez cité Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, François Hollande, François Bayrou, ce sont des gens qui sont très compétents, ce sont des bons communicateurs, et il suffit de voir les meetings, de voir les débats, ils sont très bons ces gens-là, ce sont des bons candidats.
Des bons candidats.
Et c'est normal, dans un système présidentiel, que les bons candidats gagnent, c'est logique.
Vous en avez un?
C'est logique.
D'abord, je n'ai pas cité François Bayrou, parce que François Bayrou n'est pas rejeté. Les sondages montent au contraire. Alors lui, le problème de François Bayrou, c'est autrement, c'est qu'il est toujours élu par les sondages, mais finalement, il est battu quand il faut mettre un bulletin dans les urnes. Mais là, il est en tête avec Juppé, oui. Il est en tête des sondages. Les gens voudraient quelqu'un comme Bayrou. Ils finissent par pas voter pour lui, mais ils voudraient quelqu'un pour les autres. Mais pour ce qui est des capacités, la façon dont les gens réagissent à un homme politique n'est pas par rapport à sa capacité. Sarkozy est un très bon candidat, objectivement. Oui. C'est une machine, avec même ce que ça de péjoratif aussi, d'être un très bon candidat. C'est-à-dire d'être capable de dire ce qu'il faut pour être élu, même si on n'en croit pas un mot. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, je ne sais même pas si ce qu'il dit est complètement contraire à ce qu'il pense. Je ne sais pas, parce que je pense qu'il finit toujours par penser ce qu'il dit. Mais en revanche, il dit des choses totalement contradictoires. C'est même incroyable. Incroyable. Par exemple, aujourd'hui, il dit à ses amis que quand vous avez un émigré clandestin, un étranger, qui est condamné pour un délit, une fois qu'il a réalisé sa peine, il faut l'expulser. Il dit ça. Mais c'est lui qui, avant ça existait, ça s'appelait la double peine. Et c'est lui qui a aboli la double peine. C'est le même. Et on pourrait multiplier plein d'exemples. Mais n'empêche qu'il est, c'est un très bon candidat. Simplement, il se trouve que la première fois, il n'était pas président. Donc, il est très bon candidat, donc il va être très bon président. À partir du moment où il a été président, les gens disent c'est un très bon candidat, mais bon président, on a déjà vu. Donc ça marche moins. Pour ce qui est de Hollande, je ne suis pas sûr que ce soit un très bon candidat.
En 2012, il était très bon, Hollande, pendant la campagne. Il était très bon.
Moi, je n'ai pas trouvé.
Oh, je ne sais pas quoi dire.
Il faut faire très attention. Je suis même sûr
le meeting du mois de janvier était très
je
bon.
Je suis même sûr que non, je vais vous dire pourquoi. Alors là. Premier sondage, quand Strauss-Kahn se retire, que vous vous souvenez que... Donc Strauss-Kahn se retire parce qu'il a donné sa verge pour se faire battre. Et il est à 62%. Hollande est à 62%. Il part à 62%. Et il y a un rejet de Sarkozy très fort. Quand un mec part à 62% avec un rejet de Sarkozy très fort et qu'il se retrouve à 51%, c'est qu'il n'est pas un très bon candidat.
Mais chaque fois, c'est comme ça.
Non.
Oui.
Non, mais alors,
il y a très Mitterrand, peu de différence chaque fois.
Mitterrand, la seconde fois, il était donné à 51%, il a été réélu à 54%.
Ouais. Ouais. Alexis Yeni,
pour être... en deux mots, en fait, des candidats, on n'en a pas besoin. Ce qui serait bien, c'est d'avoir des hommes d'État.
Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir pris part à cette rencontre. On doit s'arrêter là parce qu'il y en a une qui suit. Je vous rappelle donc les deux livres que nous avons évoqués. Les ineffaçables trahisons de Jean-François Kahn et la nuit de Wallenham de Alexis Yeni.